Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour Bernard.
Bonjour Dominique.
Bonjour chers amis auditeurs, bienvenue avec nous pour cette dixième leçon d'école du sabbat qui concerne la semaine du 29 août au 4 septembre 2009.
Et là il s'agit d'une question d'assurance.
Le verset à mémoriser est celui que l'on trouve dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 14.
L'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Et les questions clés qui nous sont proposées.
Qu'est-ce qui peut nous donner de l'assurance? Comment éviter que cette assurance ne devienne de la présomption? Pouvons-nous avoir l'assurance que nos prières seront exaucées? Quelle protection nous est offerte contre Satan? Et comment parvenir à connaître Dieu?
Benjamin Franklin a fait remarquer un jour que, dans cette vie, il y a seulement deux choses dont on est sûr, la mort et les impôts. En fait, il en existe encore une troisième. La vie est pleine d'incertitudes. On ne peut être certain de la stabilité d'un travail. Il n'y a aucune garantie contre la maladie, le terrorisme, la guerre ou les catastrophes naturelles. Rien ne garantit non plus qu'en se couchant le soir, on se réveillera le lendemain.
On fait alors de son mieux pour se protéger des ennuis. Mais, en fin de compte, tout cela ne sert pas à grand-chose. Rien n'est sûr dans ce monde. Mais qu'en est-il de Dieu, de ses promesses à notre égard? Ne sont-elles pas certaines? Comment pourrions-nous vivre sans confiance et sans assurance quand il s'agit de Dieu? Notre relation avec lui, la vie éternelle auprès de lui, compte plus que toute autre chose. Nous allons voir maintenant que dit Jean sur ce sujet si important.
Eh bien, ce sujet, nous l'entamons avec la journée du dimanche 30 août 2009 et le titre de cette journée sera...
Justement, donc, l'assurance que nous avons auprès de lui.
Le mot « assurance » qui se trouve dans 1 Jean 5, verset 14 et qui fait l'objet de notre étude de ce jour, a aussi en grec le sens de « confiance », de « hardiesse », et veut dire, dans d'autres contextes également, franchise et ouverture. Dans l'expression, par exemple, parler ouvertement, c'est-à-dire absence de dissimulation.
D'après Hébreux, chapitre 4, verset 16, et chapitre 10, verset 19, les chrétiens peuvent s'approcher du trône de Dieu avec assurance. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que Jésus a versé son sang pour eux sur la croix. Ensuite, parce qu'il est monté au ciel pour y exercer un ministère en leur faveur en tant que grand prêtre.
Jean utilise ce même terme dans 1 Jean 4, verset 17, pour parler de l'état d'esprit des vrais chrétiens au jour du jugement. Ils n'ont pas peur parce qu'ils s'appuient sur ce que Jésus a fait pour eux. Leur assurance ne leur vient pas d'eux-mêmes, ni de ce qu'ils ont fait ou pourraient faire. Elle repose totalement sur Jésus.
Jean exprime d'une autre façon cette assurance en répétant à la fin de sa première épître l'expression « nous savons que ». Si on la trouve deux fois seulement dans le courant de la lettre, en revanche, Jean l'utilise à 5 reprises dans sa conclusion pour bien insister sur cette notion d'assurance.
Nous allons voir maintenant, d'après quelques textes, quel peut être l'objet de notre assurance. Et voici ces textes que nous allons maintenant vous présenter. Le premier dans 1 Jean 5 et le verset 13.
« Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et nous allons poursuivre avec les versets 14 et 15.
« Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Nous poursuivons avec maintenant 1 Jean 5, les versets 18 à 20. 18 à 19 tout d'abord.
Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Et le verset 20.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle.
Nous venons donc de voir que dans 1 Jean chapitre 5 verset 13, l'apôtre nous dit « pour que vous sachiez » en parlant de l'assurance du salut. Il emploie la formule « nous savons que » dans 1 Jean 5 15. Dans ce verset, il souligne le fait que nos prières sont entendues, nous pouvons en être assurés. L'expression « nous savons que » est suivie d'une promesse de protection divine.
Et dans ce même livre, chapitre 5, au verset 19, elle introduit l'idée magnifique selon laquelle nous appartenons à Dieu. Et toujours dans 1 Jean 5, au verset 20, elle précise que nous connaissons Jésus. Et de ce fait, par lui, nous connaissons Dieu et nous demeurons en lui. Ainsi, les chrétiens sont remplis d'assurance en ce qui concerne leur relation avec Dieu, leur vie de prière, leur statut actuel et leur destinée future.
Et à présent, pour méditer, nous sommes invités à nous poser les questions suivantes. Ne nous est-il pas arrivé déjà d'être déçus de nous-mêmes au cours du mois écoulé, de ces dernières semaines ou même de ces derniers jours? En quoi le constat de nos faiblesses nous incite-t-il à vérifier que notre assurance repose bien en Jésus et non en nous-mêmes?
Eh bien, nous continuons cette étude avec le lundi 31 août 2009. Et là, il s'agit de...
Avoir la vie éternelle.
Nous allons relire donc 1 Jean, chapitre 5 et le verset 13. Nous allons relire ce texte.
Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Ce verset nous donne la raison essentielle pour laquelle Jean a écrit cette lettre. Il veut que les croyants soient sûrs de leur salut. Son auditoire et ses lecteurs doivent savoir qu'ils possèdent déjà la vie éternelle, que c'est une réalité présente. Du reste, il le redit à la fin de son évangile.
Ce verset domine les autres textes du Nouveau Testament qui traitent de la vie éternelle. Ces derniers contiennent une condition et une promesse. Mais ce verset de 1 Jean 5, 13 déclare que les enfants de Dieu doivent savoir qu'ils ont la vie éternelle. Ce n'est pas une option, un élément de la vie chrétienne qui s'ajoute ou dont on peut faire abstraction. Moïse, Pierre, Paul, les chrétiens d'Éphèse et les croyants de Colosse avaient cette certitude.
Toutefois, comment éviter qu'une telle assurance ne se transforme en présomption? Et là, nous avons encore trois textes que nous vous proposons. Tout d'abord, dans Matthieu, chapitre 10, le verset 22.
« Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous avons également le texte de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27.
« Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur. » après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié.
Et nous avons enfin le texte d'Apocalypse 3, 11. « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. »
Certains ont fait de l'assurance du salut une garantie inconditionnelle. Selon l'expression consacrée, « une fois sauvé, toujours sauvé ». S'il en était vraiment ainsi, qu'est-ce qui nous empêcherait d'oublier Dieu et de mener une vie normale? Ce qui, d'après la Bible, nous fermerait l'accès au ciel. Après tout, il est déjà suffisamment difficile de se garder pur en sachant qu'il est toujours possible de chuter. Imaginons ce que cela serait si nous pensions que notre façon de vivre n'a pas d'importance.
La Bible, elle, enseigne que nous avons l'assurance du salut, mais que nous pouvons la perdre à cause des choix que nous faisons ou que nous allons faire. Notre seule sauvegarde est de nous abandonner chaque jour au Seigneur par la foi, la repentance et l'obéissance. Veillons et prions constamment, car Satan cherche qui dévorer, nous dit Pierre. Si ce n'est nous, qui d'autre ?
Eh bien, nous avons maintenant quelques suggestions qui nous sont proposées à la fin de cette journée. Faisons notre examen de conscience et réclamons le pardon qui nous est acquis et ensuite la puissance de vaincre qui nous est promise. C'est ainsi que s'achève cette journée du lundi.
Nous voici donc au mardi 1er septembre 2009 et le thème en est
« Selon sa volonté ».
Relisons 1 Jean 5, 14 et 15 et notons ces promesses que les versets contiennent, surtout ce que cela signifie pour nous.
Voici donc ce texte. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé.
Nous pouvons aller à Dieu avec nos joies, nos fardeaux et nos requêtes. Nous pouvons lui confier nos problèmes d'argent, ceux que nous rencontrons avec nos enfants, et lui demander d'intervenir. Nous pouvons aussi lui dire que nous sommes gravement malades et que nous avons besoin de guérison.
Mais sommes-nous certains qu'il nous enverra un chèque ? Qu'il va remettre nos enfants dans le droit chemin ou qu'il nous guérira ? Pas nécessairement. Quand Jésus a prié à Gethsémané, n'a-t-il pas ajouté à sa prière « Que ta volonté soit faite » ? Dieu ne l'a pas délivré de la croix pour autant.
En revanche, si nous confessons nos péchés et que nous demandons pardon, Dieu ne nous met pas sur une liste d'attente. Soyons assurés qu'à la fin de notre prière, notre pardon est devenu réalité. Si je lui demande de faire de moi son enfant parce que j'accepte Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, Dieu exaucera immédiatement ma prière.
Chaque fois que la volonté de Dieu se révèle dans les Écritures, par un commandement ou une promesse, et que nous en réclamons, soyons sûrs qu'il répond à nos prières. Et quand nous ne savons pas vraiment où il nous conduira, ajoutons à nos prières « Que ta volonté soit faite ». Et croyons avec assurance que le Seigneur agira de la meilleure façon possible.
1 Jean chapitre 5, versets 16 et 17 n'est pas facile à comprendre. Et les biblistes ne sont pas d'accord sur la signification de ce texte. Certains pensent qu'il y est question du péché contre le Saint-Esprit. Nous savons bien pourtant que tout péché est injuste et ne peut être ni justifié ni toléré. Alors, quelle distinction Jean fait-il dans ces versets ? Il est difficile d'y répondre. Quoi qu'il en soit, il est certain que Jean n'est pas en train de minimiser la gravité du péché.
Nous avons tous prononcé des prières qui n'ont jamais été exaucées. Un bien-aimé décède, on perd son travail, etc. Tout cela malgré nos prières. Dans certains cas, on s'aperçoit par la suite qu'en réalité, tout s'est mieux passé que si nos prières avaient été exaucées comme nous le voulions.
Dans d'autres cas, ce ne sont que déceptions, déchirements et chagrins. Comment réagir alors ? Comment continuer de vivre par la foi et placer notre confiance en Dieu quand des prières, en apparence non exaucées, nous laissent dans le chagrin, la déception et même dans le doute ?
Oui, nous poursuivons donc avec le mercredi de septembre 2009, et là nous allons parler de...
L'assurance d'être protégé.
Et un premier texte nous est déjà proposé, nous le trouvons dans 1 Jean 5, les versets 18 et 19.
Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin.
Dans ce texte, Jean déclare par deux fois « nous savons ». Pourtant, il ne se soucie pas uniquement de connaissances. Ces versets contiennent des promesses qui sont aussi des défis. Au verset 18, l'expression « né de Dieu » est utilisée deux fois. Mais la première fois, elle fait allusion aux croyants et la seconde fois à Jésus. Dans le texte grec, il existe en effet au niveau du temps des verbes une différence qui a de l'importance. Quiconque est né de Dieu, c'est la première tournure. Un temps qui indique un état présent, résultant d'une action qui a eu lieu dans le passé. Ici, il s'agit des croyants qui, un jour nés de nouveau, sont aujourd'hui encore enfants de Dieu.
La seconde tournure, celui qui est né de Dieu, est un passé simple signifiant qu'il s'agit d'un événement historique ponctuel. En l'occurrence, l'incarnation de Jésus, né de Marie à Bethléem. L'emploi du même verbe pour parler des croyants et de Jésus met en relief le fait que ce dernier s'est rendu proche de nous. Il est devenu l'un d'entre nous. Mais bien sûr, Jésus est différent de nous. Il est le Fils de Dieu par excellence.
Mais que nous apportent encore ces versets? Ils parlent du malin, un terme que l'on retrouve dans 1 Jean 2 et 1 Jean 3 et qui désigne Satan. Jean l'appelle d'ailleurs le diable. D'après Apocalypse 12 et verset 9, il s'agit effectivement du serpent d'autrefois, c'est-à-dire le diable. Dans 1 Jean 5, 18 et 19, il nous est fait brièvement entrevoir le grand conflit qui oppose le Christ et Satan. Ce combat est développé dans le livre de l'Apocalypse. Mais 1 Jean fait déjà allusion aux deux camps en présence. Dans les versets 18 et 19, Jean présente en effet d'un côté le monde, la reine où sévit le malin, et de l'autre les disciples du Christ qui se retrouvent avec Jésus et avec Dieu le Père.
Ces croyants sont protégés par Jésus, qui les garde et ne permet pas à Satan de les toucher. C'est pourquoi ils parviennent à se détourner du péché et à résister aux tentations. Le verset 19 affirme que nous sommes de Dieu. Nous en avons l'assurance parce que nous avons avec Dieu une relation directe et intime et que nous sommes séparés du monde. Et il nous est possible de nous réclamer de ses promesses parce que nous sommes ses enfants.
Comment faire nôtres ces promesses de victoire et de protection? Autrement dit, qu'est-ce qui, dans notre vie, empêche ces promesses de se réaliser pour nous dès maintenant? En même temps, quelle espérance retirons-nous du fait que Jésus a déjà gagné le combat contre Satan et qu'il nous offre sa victoire?
Et voici à présent la journée du jeudi 3 septembre 2009 qui nous propose
une connaissance authentique de la divinité.
Nous sommes invités à lire 1 Jean 5, versets 20 et 21.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles.
Là encore, Jean déclare que nous savons. Nous connaissons celui qui est le vrai. Le Fils de Dieu, Jésus, est venu dans ce monde et nous a révélé Dieu le Père. Il ne s'agit pas là d'un savoir intellectuel, mais d'une connaissance profonde qui permet d'avoir avec Dieu une relation intime.
Tout au long de sa première lettre, nous l'avons vu, Jean passe facilement du Père à Jésus et vice-versa. Dans certains cas, les pronoms « il » et « lui » peuvent faire référence à la fois au Père et au Fils, ce qui n'est guère surprenant, puisque celui qui connaît le Fils a aussi le Père. Or, c'est ce qui se produit dans 1 Jean 5, verset 20, où le mot « vrai » apparaît trois fois pour désigner l'un ou l'autre. La première fois, il s'applique à Dieu le Père. Jésus est venu pour nous donner de l'intelligence, afin que nous comprenions le Père, du moins jusqu'à un certain point.
La seconde fois, il qualifie Jésus. Nous sommes dans le vrai, en son Fils Jésus-Christ. La fin de cette phrase semble expliquer le début. Le Fils de Dieu est celui qui est vrai. Jean employait déjà le mot « vrai » pour décrire Jésus, mais c'est aussi un attribut du Père.
La troisième fois, le mot « vrai » se trouve dans la phrase « C'est lui, le vrai Dieu et la vie éternelle ». Il fait probablement allusion ici à Dieu le Père ou à Jésus, ou aux deux à la fois. Les commentateurs sont divisés à ce sujet. De toute façon, il serait tout à fait logique qu'il concerne ici Jésus.
Dans 1 Jean 5, 21, l'apôtre met en garde contre l'idolâtrie. Jusqu'à présent, il n'en avait pas parlé dans sa lettre. En revanche, il s'est opposé aux fausses conceptions concernant Jésus et à leur influence sur les membres d'Église. Pourquoi, en recommandation finale, introduit-il ce nouveau sujet ? Peut-être considère-t-il les erreurs qui circulent à propos du Christ et les enseignements des antichrists comme de l'idolâtrie.
La façon dont ces faux docteurs appréhendent la divinité pourrait en effet être considérée comme une façon d'adorer de faux dieux au lieu du Père, qui, en Jésus, donne la vie éternelle et assurance à tous les croyants sincères.
Et c'est ainsi que nous arrivons à notre journée du vendredi 4 septembre 2009, où nous sommes invités à aller plus loin. Et pour cela, nous reprenons quelques textes d'Ellen White. Quand nous quêtons des bienfaits terrestres, la réponse à nos prières peut subir un délai. Et il se peut que Dieu ne nous donne pas exactement ce que nous avons souhaité. Il en va tout autrement quand nous prions pour être délivrés du péché. Car Jésus veut toujours nous nettoyer du péché pour faire de nous ses enfants et nous mettre à même de vivre d'une manière sainte. Le Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père.
Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité.
Si Dieu peut être glorifié par la guérison du malade, nous lui demandons de le rétablir. Néanmoins, nous ajoutons que ta volonté soit faite et non la nôtre. Notre foi est tout aussi ferme lorsque nous soumettons nos désirs à un Dieu dont la sagesse est infinie et que, sans anxiété fébrile, nous mettons en lui une confiance absolue, abandonnant toute chose entre ses mains. Nous avons sa promesse qui nous exauce si ce que nous demandons est conforme à sa volonté. Nos supplications ne doivent pas revêtir la forme d'un ordre, mais d'une intercession.
Eh bien voici à méditer quelques lignes avant de terminer cette semaine. Nombreux sont ceux qui s'interrogent au sujet de l'assurance du salut. Si l'on considère toutes les magnifiques promesses bibliques concernant la victoire sur le péché, pourquoi sommes-nous si nombreux à retomber constamment dans les mêmes interrogations? Eh bien des questions sur lesquelles il faut réfléchir en terminant cette semaine. Nous vous donnons donc rendez-vous à bientôt, amis auditeurs.
À bientôt.
Au revoir.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.